Bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais que nous ouvrions la Bible dans Éphésiens chapitre 1 et verset 22. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères et sœurs, depuis longtemps, je vous parle du rétablissement de toutes choses. Et le rétablissement de toutes choses comprend aussi, et surtout, le rétablissement de l'Église. Quand on dit à quelqu'un « bon rétablissement », ça veut dire que cette personne est malade. Pour ce qui concerne l'Église, elle est malade parce que, au long des siècles, elle a oublié, l'a délaissé, l'a méprisé, les lois, les ordonnances, les règles de Jésus. Elle en a fait à sa tête, elle s'est organisée humainement. Ce n'est pas qu'elle ne doit pas être organisée, mais elle doit être organisée selon les principes de Jésus-Christ. Elle a besoin d'être rétablie, elle a besoin d'un rétablissement, d'un prompt rétablissement, parce que Jésus revient bientôt. Alors, ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus est le chef suprême de l'Église. Il enseigne aussi qu'à la fin, il y en a beaucoup qui dormiront, qui perdront conscience. Quand on dort, on perd conscience. Il est dit aussi que son Église, la véritable Église de Jésus-Christ, c'est son corps. Mes frères et sœurs, nous savons que Jésus-Christ est réel, nous qui sommes nés de nouveau. Nous savons aussi que le corps de Christ est une réalité. C'est pas un concept vague, une idée, voilà. Non. C'est quelque chose de très réel. C'est lui qui construit son Église. Elle est une réalité. Elle est la réalité telle qu'elle est représentée dans les Saintes Écritures. Et le rétablissement signifie que nous devons revenir à l'Écriture pour que l'Église soit au point où elle était quand elle n'était pas malade, quand elle était bien, au début, au départ. Nous savons que Jésus est la parole faite chair. On apprend ça dans la Bible aussi. Et que dans la parole est la vie. Hein? Et que la vie est la lumière des hommes. Jean 1, 4. Oui, mais qu'est-ce que la vie? Alors voilà encore quelque chose, est-ce que c'est difficile d'expliquer? Alors c'est un peu abstrait, n'est-ce pas? Comment décrire la vie? Comment en parler pour que ceux qui écoutent comprennent ce que c'est la vie? Personne ne peut expliquer la vie. On peut mettre des mots les uns après les autres pour donner des définitions, mais pour connaître et reconnaître la vie, mes frères et sœurs, c'est par la conscience que nous avons de la vie que nous pouvons connaître la vie. C'est par votre propre conscience que vous pouvez connaître votre vie. Et la vie que notre Père Céleste nous a donnée, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, cette vie ne peut être connue que par la conscience qu'on en a. On ne peut pas la montrer aux autres, on ne peut pas l'expliquer, mais nous savons que nous avons cette nouvelle vie, parce qu'il y a en nous une toute nouvelle conscience. C'est difficile d'expliquer ce qui se passe lorsque on reçoit Jésus-Christ dans notre vie. Il y a des mots. Par exemple, on dit « je suis né de nouveau ». Voilà, cette personne est née de Dieu. Voilà. Mais comment savez-vous que vous êtes né de Dieu? Comment la communauté de Jésus-Christ peut savoir que vous êtes né de Dieu? Mes frères et sœurs, la présence de la vie de Dieu dans une personne, elle est attestée par la conscience que nous avons de cette vie divine. Quand la vie de Dieu entre dans une personne, elle en a conscience. Mais Michel, ça veut dire quoi, avoir conscience de la vie? Bon, alors on va regarder un peu le côté positif, le côté négatif. Quand on a commis, par exemple, le côté négatif, quand on a commis un péché, quand un enfant de Dieu commet un péché, il perd sa joie intérieure, Ça, c'est une des manifestations de la conscience de la vie. Dieu déteste le péché. Et étant donné qu'il vit en nous, eh bien, nous ressentons un malaise devant le péché. On attriste le Saint-Esprit qui est en nous, il est attristé, on le sent. C'est quelque chose de bien réel. Le fait d'avoir cette conscience de la vie prouve que vous possédez la vie. Si vous éprouvez rien après avoir péché, et qu'il faut qu'on vienne vous dire que vous avez fait quelque chose de mal, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce qu'il y a besoin que quelqu'un vienne vous voir pour vous informer que vous avez péché? Ah bon? Alors, vous écoutez cette personne et puis elle vous montre dans la Bible que, par exemple, mentir, c'est pas bien. Alors, vous lisez le verset et puis vous êtes informé, vous dites, ah ben oui, alors j'ai péché. Frères et sœurs, si vous en êtes là, vous n'êtes pas né de nouveau. Une personne qui ne reconnaît pas que ce qu'il fait est mal, c'est pas qu'il n'écoute pas les pasteurs, c'est pas qu'il n'écoute pas l'enseignement, c'est pas qu'il n'écoute pas la Bible. Il n'écoute, ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas la personne qui le reprend, mais une telle personne n'a pas de conscience spirituelle. Une telle personne n'a pas la vie de Dieu en elle. C'est absolument impossible que quelqu'un ait une vie spirituelle sans avoir conscience de cette vie. Si la vie de Dieu en vous est attristée, si vous attristez le Saint-Esprit de Dieu en vous, mais vous le ressentez, la vie de Dieu est concrète, très réelle. Elle a sa propre conscience. Alors, comme en tout, il y a les deux côtés. Et pour ça, pour le côté négatif, une personne qui a la vie en elle, elle a conscience de ses péchés. Bien. Mais alors, positivement aussi, elle reconnaît, elle connaît Dieu. Et quand la vie de Dieu est en nous, son esprit est en nous, eh bien, on n'a pas reçu un esprit de minable, on a reçu un esprit divin. Saint. Et alors naturellement, on sait que Dieu est accessible, que nous pouvons l'appeler Père, et cette vie rend témoignage à notre vie, cet esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une conscience de cela. Romains chapitre 8, verset 16. Connaître notre Père céleste, c'est la conscience intérieure de cette vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'ont qu'une compréhension doctrinale. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. C'est malheureux, mais c'est ainsi, mes frères et sœurs. Ça fait plus de 40 ans que je prêche l'Évangile, que je vais dans les églises, et je vois tout ça, et je le vois. Pas de relation vivante avec lui. Et elles ont peur de lui, elles ont peur de Dieu, parce que Dieu est incompréhensible, voilà, c'est des doctrines compliquées, c'est oh là là, oui, bon. Alors, vous les écoutez prier, vous dites, oh mon Père Céleste, oui, ça c'est des paroles. Elles ne sentent ni la séparation du péché, ni la proximité du Seigneur, ni l'horreur au sujet du péché, ni l'intimité avec Dieu. Elles n'ont pas de relation avec Dieu. Parce qu'elles n'ont pas reçu la vie divine en elles. Vous savez, hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous, soyez baptisés et recevez l'Esprit. Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit dont il est question là. C'est de recevoir l'Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir Dieu en nous. Après, d'être immergé, c'est autre chose, c'est d'être plongé dedans. Mais là, c'est avoir l'Esprit en vous. De devenir le temple de Dieu. N'ont pas conscience que Christ a détruit le mur de séparation entre elle et Dieu, alors elles sont toujours dans une espèce de mélange de crainte et de légalisme pour les garder plus ou moins sur un chemin de pseudo-sainteté. Elles peuvent avoir demandé pardon, elles peuvent avoir été baptisées, mais elles n'ont pas reçu en elles la vie, l'Esprit de Dieu, je dis bien. Je ne parle pas ici du baptême dans le Saint-Esprit, je parle de recevoir la vie de Dieu en soi, pas d'être plongé dans la vie. Ça, c'est autre chose, on y viendra après. Elles peuvent dire que elles sont chrétiennes, mais leur conscience devant Dieu, c'est pas adéquat, c'est une incohérence, quelque chose qui va pas. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que la présence de cette conscience qui puisse attester l'existence de la vie. Je veux dire plutôt que il n'y a que cette conscience, excusez-moi, il n'y a que cette conscience de la présence de la vie qui nous rend, on peut voilà constater voilà, l'esprit de Dieu habite en moi, j'en suis conscient. C'est pas simplement parce qu'on nous a dit voilà vous êtes le temple du Saint-Esprit, ah bon il habite en moi, bon entre le poumon gauche et l'omoplate droite, où est-ce qu'il est, comment, je sais pas où est-ce qu'il est. Alors maintenant, c'est pareil en ce qui concerne le corps de Christ. Paul nous dit qu'on doit discerner le corps de Christ. Et que parce qu'on ne discerne pas le corps de Christ, il y en a beaucoup parmi nous qui sont malades et d'autres qui sont même morts. Bon, alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Mais la réponse est simple. Ceux qui connaissent la vie du corps de Christ ont conscience du corps de Christ. C'est une affaire de conscience. Quand je discerne le corps, j'ai conscience du corps. Parce que la vie en moi ne peut manquer de manifester sa conscience. La vie de Dieu en moi manifeste cette conscience. Vous ne pouvez pas percevoir le corps de Christ seulement comme un principe ou un enseignement avec des arguments. Mais vous découvrez que le corps de Christ est une question de conscience intérieure réelle. On va lire 1 Corinthiens 12, 26, si vous voulez bien. 1 Corinthiens 12, 26. Alors, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors, il y a le côté négatif et aussi le côté positif. Hein. La souffrance, c'est se réjouir. Souffrance, c'est une sensation. La conscience, quand on souffre. Quand on se réjouit aussi, c'est une sensation. C'est aussi, on a conscience de se réjouir. On n'est pas un morceau de bois. Hein. Eh bien, mes frères et sœurs, bien qu'il y ait plusieurs membres, il n'y a qu'une seule vie. Et donc, qu'une seule conscience aussi. Toujours, j'ai vu une personne, j'accompagnais Michou à Paris pour faire une visite à l'hôpital et on a vu une personne qui avait une jambe artificielle. Elle était formidable, cette jambe, on aurait vraiment dit voilà que c'était une jambe pareille à l'autre, elle était presque pareille à l'autre, mais il n'y avait pas de vie dans cette jambe artificielle. Donc, pas de conscience du corps. Quand un membre du corps de ce bonhomme souffre, eh bien, la jambe artificielle ne souffre rien, elle ne sent rien. Quand le corps de ce bonhomme est dans l'allégresse, eh bien, la jambe artificielle ne sent rien. Tous les autres membres ont la même conscience parce qu'elles possèdent une même vie en commun. Et cette vie n'est pas dans la jambe artificielle. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que connaître la doctrine sans avoir conscience de la vie, sans avoir conscience de la vie de Dieu en nous, sans avoir conscience du corps de Christ, ça sert à rien. À rien. C'est pas parce que les bons pasteurs disent que mentir c'est péché que les chrétiens ne disent pas de mensonge. On a besoin que de temps en temps le pasteur nous rappelle ça, parce que pris dans la vie, voilà, on est bousculé, et puis on est agité, et puis alors il faut remettre les choses en place. On a besoin que de temps en temps, les ministres de Dieu disent. Mais un chrétien qui ne ment pas simplement parce qu'on l'a enseigné que mentir c'est mal, il y a vraiment un problème. Parce que ce n'est pas de savoir si c'est bien ou pas qui est important, c'est d'avoir conscience que c'est mal. Parce que ça attriste le cœur de Dieu. Parce que ça attriste la vie de Dieu qui est en nous. Vous voyez ce qui est spécial avec quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui? C'est que quand il ment extérieurement avec son corps, il dit des trucs comme ça, voilà, eh ben, il se sent mal à l'intérieur. Non pas parce qu'il sait que du point de vue doctrinal c'est mal de mentir, mais parce que en lui, il a en lui la conscience de la présence de Dieu qui est attristée. Il a la conscience que l'Esprit de Dieu est attristé en lui. Toute la différence. Celui qui n'a ni vie, ni conscience intérieure, n'est pas né de nouveau, mes frères et sœurs. Il est simplement sous une loi et il paraît très bien, mais il n'y a pas la vie. La jambe artificielle était très bien, mais elle n'est pas vivante. Pour un être qui n'est pas né de nouveau, les règles sont des normes et non la vie. Par exemple, pour l'indépendance, c'est la même chose. Une personne qui agit de façon indépendante prouve qu'elle n'a jamais connu, qu'elle n'a jamais discerné le corps de Christ. Il est la tête, il est le chef, il est la tête. Et nous sommes les membres. Eh bien, je vous dis quelque chose. Votre tête commande à votre main de prendre la tasse qui est devant vous, mais la main le prend avec l'aide du bras, avec l'aide de l'épaule, pas toute seule, la main n'est pas indépendante. Elle dépend du poignet, elle dépend du bras, elle dépend de l'épaule, elle dépend de tout ce qui est rattaché à la tête. Une personne qui agit de façon indépendante, qui fait comme elle veut, quand elle veut. Alors elle aura entendu prêcher là-dessus. Alors, c'est autre chose que de savoir à cause de l'enseignement ou de vivre la réalité de cela en esprit. Connaître l'enseignement sur le corps de Christ et discerner la réalité du corps de Christ, ça appartient à deux mondes totalement différents. Le monde de la chair ou le monde de l'esprit. Entendre l'enseignement sur le corps, ce n'est que la compréhension extérieure d'un principe, alors que discerner le corps de Christ, ça produit une conscience intérieure. La conscience de la vie de Dieu en moi, la conscience de la vie de Dieu dans mon frère, dans ma sœur, la conscience du corps de Christ, c'est l'expression de la vie. Attention, écoutez bien. La conscience de la vie se distingue parce que elle vous permet de savoir spontanément, sans qu'on soit obligé de vous le dire. C'est pourquoi je vous dis qu'un vrai disciple de Jésus-Christ ne va pas agir selon ce que les gens vont dire autour de lui ou ce que le pasteur dit, mais il va dire la vérité. C'est une aimable répétition de ce qu'il sait déjà. En fait, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous enseigne ces choses et on a besoin de se retrouver ensemble. Dieu a organisé son Église de cette manière-là, mais un vrai disciple de Jésus-Christ n'agit pas selon ce qu'il entend dire, mais il est motivé, son moteur, il est motivé par ce qui lui est dit à l'intérieur de lui-même. En lui, dans le vrai disciple de Jésus-Christ, il y a la vie, la lumière intérieure, une conscience intérieure. Et cette conscience, elle provient de l'éclat intérieur de la lumière de Dieu. Elle vient, c'est cette lumière de la vie intérieure, de votre vie intérieure. Et non de l'information extérieure. Voilà pourquoi tant de religions, voilà pourquoi tant de légalistes, voilà pourquoi tant de gens qui qui n'extériorisent rien, et puis qui laissent sécher en eux ce qui est... Parce que voilà, ils sont des chrétiens charnels. Alors mes frères et sœurs, prions pour que Dieu soit miséricordieux envers nous, afin que nous puissions toujours être en contact avec cette conscience de la vie. Prions pour que nous puissions toujours nous conformer à cette conscience de la vie en nous. Prions pour que nous puissions avoir une grande sensibilité en toutes ces choses, en ce qui concerne le temporel et le spirituel, parce que nous sommes sur cette terre. Et on ne devrait pas avoir besoin de dire « Lève-toi pour aider cette pauvre vieille-là qui... » Non, tu devrais y aller, mais spontanément. Vous voyez ce que je veux dire? Prions pour que nous ayons cette sensibilité, pour que nous puissions être toujours conscients de Dieu, pour qu'on soit toujours conscients du péché, que nous soyons toujours conscients du corps de Christ et de toutes les réalités spirituelles, que nous en soyons conscients, que Dieu nous... Si vous vous êtes endormi, que Dieu vous réveille. Alors que votre chair entend mon message par les oreilles, eh bien, prions que votre esprit, que votre être intérieur se réveille et reprenne conscience et que vous cessiez de dormir, que vous deveniez réellement conscient de la vie de Dieu en vous, du péché et du corps de Christ. On reviendra sur ces choses, je vous en parlerai encore, Dieu voulant. Merci Jésus, merci d'aider mes frères et sœurs, de m'aider moi-même aussi, et de faire ta volonté. Aide-nous, mon Dieu, à faire ta volonté. C'est ce que nous voulons le plus. Aide-nous à la comprendre et à la faire. Merci Jésus. Amen. Amen.